Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Coucou. Ah, ça vous va bien le printemps. Qu'est-ce que vous êtes beau. Le 26 juin 2011, Lauren Giddings s'enferme dans son appartement le temps du week-end pour réviser. Quelques jours plus tard, ses proches n'ayant plus de nouvelles préviennent les secours. Les premières informations se veulent rassurantes. La porte est toujours fermée, sa voiture est sur le parking, aucune vitre n'est brisée. Pourtant, après quelques heures de recherche, un torse féminin est découvert dans l'une des bennes à ordures. L'un des voisins, interviewé au moment des faits, s'effondre en larmes. Mais alors, qu'a-t-il bien pu arriver à Lorraine? Comment le drame a pu se jouer sans aucune trace d'effraction, ni aucune goutte de sang présente dans le logement? En tout cas, à l'œil nu. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, MySkies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de la disparition puis du meurtre de Lauren Giddings, une étudiante en droit qui s'enferme un week-end dans son appartement puis se volatilise jusqu'au moment où on retrouve son torse dans la benne à ordures d'à côté. Vous allez voir pour cet HVF, on a énormément d'images, de vidéos et d'interview de l'époque, je vous en dis pas plus, vous allez comprendre. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Notre histoire prend place aujourd'hui, oui je sais encore et encore aux États-Unis d'Amérique, mais c'est quand même pas de ma faute s'ils ont tendance à découper plus facilement que chez nous des pauvres jeunes femmes qui ont rien demandé. Et puis l'Amérique, c'est aussi l'un des seuls pays où le système judiciaire est autant public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a accès à des tas de documents, des vidéos, des interrogatoires, des images de scènes de crime. C'est inimaginable en France, ce genre de choses. Rien que le fait d'imaginer, filmer et diffuser des procès, ça a fait débat. Alors on est à des années-lumière de la médiatisation américaine. Enfin bref, c'était la petite parenthèse du jour, tout ça pour dire qu'on est à Macon, en Géorgie, grande ville de 150 000 habitants, qui est très étudiante, très jeune, puisqu'on a des collèges, des lycées, mais aussi deux universités, celle de Mercer et celle de Géorgie Centrale. C'est d'ailleurs dans l'université de Mercer, comme quoi cette HVF est bien faite, que Lauren Giddings, 27 ans, étudie le droit. Lauren, elle naît le 18 avril 1984, c'est la première enfant de Karen et Bill Giddings. Et à la base, Lauren n'aurait jamais dû se retrouver dans ce coin d'Amérique, puisqu'elle aurait voulu étudier la médecine, mais un peu au dernier moment, elle a changé d'avis et a voulu se rendre dans le sud des États-Unis et a choisi l'université de Mercer. Et Lauren, c'est une grosse tête. Alors, c'est pas méchant, justement, c'est quelqu'un de très intelligent qui a obtenu, avant d'entrer à l'université de Mercer, un autre diplôme en Géorgie, celui de sciences politiques et d'études religieuses. Mais elle a pas voulu s'arrêter là, donc elle a pris ses valises et elle a débarqué à Macon. Pas besoin de vous dire à quel point ses parents étaient fiers, surtout que Lauren, c'est la première de sa famille à aller à l'université et à avoir autant de diplômes. Moi, dans ma famille, je suis le premier YouTuber. Bah, c'est pas vraiment autant la classe.
Voulant devenir avocate, Lauren obtient un stage dans un cabinet d'avocats avant d'entamer son année à l'université. Ses collègues la surnomment d'ailleurs « Pink Wednesday » puisque plutôt que de s'habiller très carré avec des vêtements sombres d'avocats qui font peur, elle aime venir avec des robes colorées et a même instauré dans son cabinet d'avocats le mercredi coloré. Voilà où elle oblige les gens à venir habiller avec des couleurs.
Mais on reparlera de la vie de Lauren après sa disparition en juin 2011, trois ans après son entrée à l'université de Mercer.
Puisque pour étudier à l'université de Mercer, Lorraine a déménagé dans un complexe d'appartements, le Berister Hall, en 2008. C'est les appartes très américains qui font presque motel avec la porte d'appart qui donne directement sur l'extérieur. Dans cet endroit, Lorraine s'y sent bien, mais il y a un petit truc qui la tilte, c'est que depuis quelque temps, elle se sent observée, elle sait pas l'expliquer, elle sait pas si c'est psychologique et qu'elle délire complètement, mais elle a l'impression que quelqu'un l'observe, et ce quelqu'un, elle l'a même surnommé le voyeur de Mâcon. Même si Lorraine prend un peu ça sur le ton de la rigolade, elle a vécu quelques événements vraiment flippants dernièrement. Elle a dit à ses proches qu'elle avait eu l'impression que quelqu'un était carrément entré dans son appart et qu'il était sorti en douce. Elle est persuadée d'avoir entendu la porte d'entrée se fermer alors qu'elle était en train d'étudier sur son ordinateur. Une autre fois, alors qu'elle était toujours seule, tellement terrorisée, elle s'est armée d'un couteau prête à se défendre. Mais elle n'a jamais vu celui qu'elle surnomme le voyeur de Mâcon, et au fil du temps, elle a commencé à se dire que c'était peut-être ses études de droit pendant lesquelles elle a étudié diverses affaires criminelles qui l'ont peut-être rendue un petit peu parano. On se comprend. Elle en parle d'ailleurs dans un email qu'elle envoie à son petit ami David Van Diver le samedi 25 juin vers 22h. Et j'ai bien dit email, j'ai vérifié, même si on est en 2011, Lorraine envoie bien un email pour communiquer avec son petit ami. Elle lui explique qu'elle se sent toujours observée, mais sinon à part ça tout va bien. Elle va passer le week-end à réviser, donc comme elle en a l'habitude, elle va complètement se déconnecter, couper son téléphone et se plonger jusque dimanche soir dans ses cours de droit, donc s'il n'a plus de nouvelles, c'est normal.
Faudrait pas que David s'inquiète et s'imagine que sa petite amie a été kidnappée ou bien découpée dans sa baignoire d'appartement. Hein? Et puis quoi encore?
Sauf que justement, le dimanche va passer, pas de soucis, puis le lundi vient. Jour de cours, normalement, Lorraine devrait être de nouveau connectée. Sauf qu'elle ne répond pas à sa sœur, Caitlin, qui s'inquiète rapidement. La jeune femme envoie des SMS, tente de l'appeler, elle tombe tout de suite sur la messagerie vocale. Bon, elle décide de ne pas trop insister, même si ça lui reste dans un coin de la tête. Le mercredi, c'est Cathy O'Hare, la meilleure amie d'enfance, qui essaie de joindre Lorraine, qui ne répond toujours pas. David est contacté par les proches de la jeune femme et il confirme lui aussi qu'il n'a plus de nouvelles de Lorraine depuis son dernier email le samedi soir.
Mais il explique qu'il n'est pas inquiet, Lorraine, ça lui arrive très souvent de complètement couper son téléphone pendant des jours et des jours, c'est sa technique de révision, et c'est comme ça qu'elle y arrive si facilement, entre gros guillemets, dans ses études.
David, il connaît bien Lorraine, puisqu'ils sortent ensemble depuis qu'elle a fait son stage au cabinet d'avocat dans le courant d'année 2007. Ça fait donc 4 ans qu'ils sont ensemble, et David, c'est pas un adolescent, c'est un type sérieux, puisqu'il a 20 ans de plus que Lorraine. C'est un avocat confirmé qui vit avec Lorraine une sorte d'histoire d'amour, je t'aime moi non plus. Ils se séparent régulièrement, mais finissent toujours par retourner l'un vers l'autre.
La différence d'âge n'a d'ailleurs pas trop choqué les médias américains, qui ont surnommé David l'avocat à succès, et Lorraine la jeune fille ambitieuse. Alors, même si David dit aux proches de Lorraine de ne pas s'inquiéter, quand son père va apprendre que sa fille ne répond pas depuis plusieurs jours, 27 ans ou pas, il va prendre sa voiture et se rendre tout de suite au complexe d'appartements.
Dans la nuit du 30 juin, vers 1h du matin, la sœur et le père de Lorraine débarquent à son appartement. Et tout de suite, ils ne comprennent pas et sont aussi un peu rassurés. Il n'y a pas de signe d'effraction, la porte est fermée à clé, aucune vitre n'est cassée, sa voiture est garée sur le parking. Mais Lorraine ne répond toujours pas quand on toque.
Alors, avec une clé que la jeune femme avait donnée à ses proches, Caitlin et Bill entrent dans l'appartement et découvrent... Bah rien, rien du tout, parce qu'en fait l'appartement est en ordre, bien rangé, ça sent bon. Lorraine, c'est comme volatilisée.
Aux premières heures du matin, les autorités sont prévenues, la famille prévient les amis de Lorraine et plusieurs bénévoles se joignent assez rapidement aux recherches, surtout ceux habitant le même bâtiment de Lorraine qui disent tous ne rien avoir entendu. Dans le même temps, David débarque lui aussi sur place avec des amis pour rechercher Lorraine. Les journalistes de Mâcon sont eux aussi informés de la disparition d'une jeune femme dans un complexe d'appartements étudiants. Ils commencent à interroger les passants, dont un voisin de Lorraine, l'un de ses bons amis, un certain Stephen McDaniel, qui nous en apprend un peu plus sur Lorraine.
What kind of person was she? I mean, what did you see?
I mean, she's as nice as can be. I mean, very personable, very much a people person.
Do you know anybody any enemies she might have had, somebody that might want to hurt her?
No, we don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her.
Mais alors que l'interview est des plus classiques, une information tombe.
What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there.
Body?
Had you seen anything there? I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir?
I think I need to sit down.
Okay.
Ce 30 juin étant un jour de collecte des ordures, le camion poubelle qui devait normalement récupérer les bennes du complexe d'appartements n'a pas pu y accéder à cause du nombre de personnes présentes sur place pour rechercher Lorraine. Ils ont donc laissé derrière eux une grande benne à ordures qui a été fouillée par l'un des enquêteurs présents sur place. Enquêteur qui, ce matin du 30 juin 2011, a été surpris par une odeur nauséabonde provenant du conteneur. En regardant à l'intérieur, il y a découvert non pas un corps, comme l'annoncent dans un premier temps les journalistes, mais un torse féminin enveloppé dans du plastique. Un simple torse, rien de plus. L'enquête s'accélère et prend une tournure criminelle, même si le torse qui est retrouvé dans la benne à ordures n'est pas, dans la minute, identifié comme appartenant à Lorraine. On sait que Lorraine a disparu dans le complexe d'appartements. On retrouve au moment des recherches un torse de jeune femme dans la poubelle, drôle de coïncidence. Enfin, non, c'est pas drôle, mais vous m'avez compris. Équipés de luminol, les agents commencent à asperger tout l'appart de Lorraine. Ils en foutent partout du sol au plafond pour voir si un drame s'est joué à l'intérieur. Et dans la salle de bain, le produit révèle une véritable scène d'horreur. Toute la pièce d'eau est gorgé de sang de haut en bas, jusqu'au fin fond de la baignoire. Le tueur a pris le temps de nettoyer, mais pas assez. Les enquêteurs comprennent tout de suite que Lorraine Giddings a été découpée dans sa propre baignoire. Des chiens sont alors appelés en renfort. On leur demande pas leur avis sur l'affaire, on a juste besoin de leur petite truffe toute mignonne pour renifler l'endroit et voir si l'odeur de Lorraine se trouve autre part dans l'appartement. Est-ce que grâce à son odeur, même si c'était une jeune femme très propre et qui sentait certainement bon, on peut retrouver d'autres choses cachées dans l'appartement? Parce que pour l'instant, on n'a que son torse. Et ça tombe bien, les chiens marquent près d'un placard qui est donc ouvert par les enquêteurs, qui découvrent à l'intérieur un drap imbibé de sang et une scie à métaux qui semble avoir été nettoyée mais pas en profondeur, puisqu'on remarque encore du liquide rougeâtre dans les coins. Mais les chiens ne s'arrêtent pas là, ils vont jusqu'à la porte d'appartement, demandent à sortir et se rendent à une autre porte juste à côté dans le même complexe d'appartement. La porte de Stephen McDaniel, l'homme qui a été interviewé plus tôt par des journalistes et qui s'est effondré à l'annonce de la découverte du torse de Lorraine. Bon, on va éviter d'aller trop vite, Lorraine et Stephen, ils étaient voisins, donc c'est pas vraiment étonnant que son odeur se trouve sur son palier de porte. Même si Stephen, il a une personnalité jugée atypique par ses proches. Place à l'enquête pour découvrir quelles horreurs a pu vivre Lorraine. La piste du voisin. Dans un premier temps, les enquêteurs vont fouiller un petit peu le passé de Lorraine pour voir si elle aurait pu avoir des ennemis. Alors, on se penche sur ses années d'université. Lorraine, c'était quelqu'un de très populaire qui participait à différentes associations de l'université de Mercer. Elle fait de la course à pied avec un groupe d'amateurs. Elle allait très régulièrement à l'église, invitait souvent ses camarades chez elle pour passer des soirées pendant lesquelles elle préparait un bon repas pour que tout le monde se détende. Les études de droit, c'est dur et elle voulait que tout le monde réussisse comme elle. Dans son entourage, on ne trouve aucun témoin, aucune plainte, rien qui pourrait faire dire aux enquêteurs que le coupable puisse se trouver dans ses proches. Même avec David, tout semblait bien aller puisque le couple avait prévu de se marier dès que Lorraine aurait une situation stable. Est-ce qu'on serait enfin sur une histoire dans laquelle le futur mari ne tue pas sa femme? Est-ce que la malédiction va enfin être rompue sur cette chaîne? Lorraine n'a pas volé le mari d'une autre femme qui aurait pu péter un plomb. Elle n'a pas repoussé les avances d'un homme qui l'a harcelé. Tout va bien de ce côté-là. Même dans sa famille, rien ne ressort. Lorraine a trois petites sœurs avec qui elle s'entend très bien, qui la décrivent comme une fille très positive, qu'elle prenait d'ailleurs pour exemple. Le soir de sa disparition et certainement de son meurtre, le samedi lorsqu'elle envoie un email à David, Lorraine a passé la soirée avec des amis pour se détendre un peu avant ses plusieurs jours de révision enfermée dans son appart. Rien ne ressort donc. Concernant Stephen McDaniel, le voisin, ben Lorraine le connaissait bien. Ils ont tous les deux travaillé dans la même boîte, ont été à la même université, ont étudié ensemble. Bref, c'était deux jeunes étudiants qui étaient bons copains. Alors oui, les filles, vous le savez, l'amitié fille-garçon, c'est un petit peu compliqué. Et bien évidemment que Stephen a tenté de sortir, puis de coucher avec Lorraine. Mais la jeune femme lui a gentiment expliqué qu'elle préférait qu'ils restent copains. Les enquêteurs vont bien évidemment apprendre par la famille de Lorraine qu'elle se sentait suivie, comme je vous disais au début, mais elle a jamais vu celui qu'elle surnommait le voyeur de Mâcon. Donc, même si on prend la piste du voyeur très au sérieux, c'est compliqué d'avancer de ce côté-là sans aucune description. Et pourtant, l'enquête va très vite se focaliser sur une seule personne, le fameux voisin, Stephen McDaniel, qui refuse que les enquêteurs entrent dans son appartement sans mandat de perquisition. Il est très attaché au droit, ne voit aucun problème à ce que les flics entrent chez lui, mais il veut un papier officiel si les agents doivent absolument tout fouiller, parce que qui va payer s'il casse quelque chose ? Alors il les laisse quand même rentrer 5 minutes histoire de faire redescendre la tension et pour montrer aux enquêteurs qu'il a pas fait un hôtel satanique avec la tête et les membres de Lorraine dans son appartement. Les enquêteurs entrent, ne découvrent absolument rien. Voilà, Stephen, c'est un gars banal, entre guillemets, qui aime collectionner des épées et des armures de chevalier. Il a énormément de cartons dans son appartement et de toute façon, sans mandat de perquisition, ben on peut pas fouiller ses cartons, ses placards, n'importe quoi. Et pour demander un mandat de perquisition au juge, il faut un dossier solide. Stephen McDaniel, il naît le 9 septembre 1985, il a donc 24 ans au moment des faits. Il grandit à Liburn, près d'Atlanta, c'est un gamin décrit comme intelligent, passionné par le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Il aime collectionner des objets en rapport avec ses œuvres. Voilà, c'est l'adolescent un peu geek sur les bords de base des années 2000, rien d'incroyable dans sa personnalité. Jeune, il est surnommé Monsieur Propre par ses proches parce qu'il est maniaque vis-à-vis du nettoyage. C'est un garçon organisé qui va également aller l'église, il est très sérieux dans ses études et sa foi, tout comme Lorraine l'était, donc c'est normal qu'ils soient devenus amis en se rencontrant à l'université, puis en emménageant comme par hasard, tous deux dans le même complexe d'appartements à Barrister Hall.
Alors Lorraine, elle a décrit Stephen à ses proches comme un type pas méchant, mais un petit peu bizarre, très renfermé, qui a pas vraiment les codes pour discuter, et d'ailleurs la toute première fois qu'elle lui a dit bonjour, il a sursauté.
Les proches de Stephen le décrivent comme un type maladroit socialement qui a beaucoup de mal à tenir une conversation et qui a même des réactions bizarres quand il est mal à l'aise et ne sait pas quoi faire. Il peut se mettre à sourire bêtement, rigoler pour rien ou même miauler comme un chat. L'un de ses anciens colocataires, un certain Tad Monet, qui a étudié avec lui à l'université de Mercer, tout comme Lorraine, le décrit comme un type gentil, un peu bizarre sur les bords et avec des passions qu'il juge glauques, comme les films de zombies, ou bien une passion obscène pour imaginer le meurtre parfait. Tad raconte par exemple que Stephen s'entraînait régulièrement à ouvrir des portes verrouillées et il arrivait généralement à les débloquer en 30 secondes chrono, sans un bruit, sans rien forcer. Stephen a aussi expliqué à Tad que le jour où il voudrait commettre un meurtre, il n'aurait qu'à utiliser du chloroforme pour endormir sa victime avant qu'elle ne se mette à hurler.
Et ça tilte un peu les enquêteurs, puisque c'est vrai que dans le complexe d'appartements, personne ne dit avoir entendu des hurlements par exemple.
Le 1er juillet, 5 jours après le meurtre de Lorraine, l'appartement de Stephen McDaniel est perquisitionné sous mandat. Dans le même temps, le voisin est conduit au poste pour y être interrogé. Et dans l'appartement de Stephen, les enquêteurs vont tout de suite se rendre compte qu'ils ont affaire à un homme pervers qui vit finalement renfermé sur lui-même, qui n'a jamais eu de petit ami et qui est devenu au fil du temps complètement obsédé.
Tout d'abord, on retrouve chez lui un tas de préservatifs. Alors ça, c'est pas inquiétant. Ce qu'il est, c'est qu'à côté de ce tas, on retrouve des clés qui permettent d'ouvrir les portes des différents logements du complexe d'appartements. Stephen explique alors très calmement aux enquêteurs que lui, il est vierge, il n'a jamais couché avec une fille et en fait, il s'est amusé au fil des mois et des semaines à entrer dans les appartements des autres étudiants qui logent dans le complexe pour voler leurs clés et leurs protections pour qu'ils puissent rester comme lui le plus pur possible jusqu'au mariage. Bon alors, petite parenthèse, Stephen se dit pur, mais on retrouve chez lui des culottes qu'il volait aux voisines. Mais comme souvent dans ce genre d'affaires qui se passent à l'ère d'Internet, on est en 2011, il faut plonger dans l'ordinateur de Stephen pour découvrir sa véritable personnalité, puisque sur Internet, à travers les recherches, les forums, les messages, les gens qui se pensent anonymes dévoilent leur vraie personnalité. Le fait d'être caché au chaud chez soi derrière un écran donne confiance à beaucoup qui dévoilent leur vraie nature. Eh bien, concernant Stephen, on découvre que le 28 avril, à peu près 2 mois avant le meurtre de Lorraine, il a recherché sur Internet des photos d'elle nue, qu'il n'a pas trouvées bien évidemment. Ensuite, il a regardé plusieurs longues minutes des photos sur le profil Twitter de la jeune femme. Je vous laisse avec votre imagination pour deviner ce qu'il a pu faire face à la photo de Lorraine affichée sur son écran pendant plusieurs minutes. Il a ensuite recherché des vidéos dans lesquelles le scénario était des filles endormies qui se faisaient agresser. Du mois d'avril au mois de juin, Stephen quasiment chaque jour n'a fait que ça. Il a passé des heures et des heures à visionner des films pour adultes, à chercher des jeunes femmes à rencontrer. Il a même été sur un site d'escorte, à regarder en boucle des photos de Lorraine. Lui qui se dit vierge voulait absolument coucher avec quelqu'un. Et la seule jeune femme dans sa vie proche de lui était sa voisine, Lorraine Giddings. Toutes les vidéos qu'il visionnait avaient un rapport avec l'endormissement, le fait d'avoir à sa disposition une fille inerte. Sur un forum, il se fait appeler le fils de la liberté et se décrit comme un monstre au cœur froid. Il raconte qu'il aimerait étouffer quelqu'un, tirer sur des gens, qu'il fantasme aussi à l'idée de jeter un corps dans une poubelle comme une vulgaire ordure sans intérêt. Il cite ses films préférés comme étant Grotesque, sorti en 2009, dont je ne peux absolument pas vous diffuser d'extrait puisqu'il raconte l'histoire d'un couple enlevé par un homme et qui va subir les pires atrocités enfermé dans une cave pendant toute la durée du film. Pour les plus avertis d'entre vous et pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du genre de contenu que visionnait Stephen, je vous mettrai un extrait du film sur mon compte Twitter à la fin de cet HVF. Stephen cite aussi The Girl Next Door, autre film d'horreur basé sur l'histoire vraie de Sylvia Likens, 16 ans, qui a vécu l'horreur chez une amie de sa mère, Gertrude Banizewski. La bougresse, jalouse de la beauté et de l'éducation de l'adolescente, l'a humiliée puis enfermée dans sa cave, lui faisant subir les pires atrocités et invitant des garçons pour s'amuser avec elle. Au vu des films visionnés qui impliquent de très jeunes adolescentes, vous n'allez pas être étonné si je vous dis que sur l'ordinateur de Stephen, on retrouve également des photos d'enfants. Le 1er mai, Stephen a recherché des méthodes d'évasion de prison. Le lendemain, il s'est renseigné sur combien de temps un être humain pouvait rester inconscient avant de reprendre connaissance. En fait, on se rend rapidement compte que la vie de Stephen à l'intérieur de son appartement, c'est une boucle. Il regarde d'abord un film violent, puis se renseigne sur comment étouffer quelqu'un pour pouvoir vivre son fantasme, puis pour se libérer de sa pulsion, eh ben, il met une photo de Lorraine sur son écran et il fait ce qu'il a à faire. Bon, on a donc compris que Stephen était obsédé par Lorraine, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que, par exemple, c'était lui le fameux voyeur qui harcelait Lorraine et dont elle n'a jamais pu voir le visage tellement il réussissait à être discret? Et pour aller encore plus loin, est-ce qu'il a pu lui faire du mal? Sur quelle base? Et si il est coupable, où est le reste de son corps? Eh bien, on peut commencer à avoir un bon début de preuve grâce à cette vidéo retrouvée sur l'ordinateur de Stephen.
Sur cette vidéo que Stephen avait essayé de supprimer de son ordinateur mais qui a été retrouvée par les enquêteurs, on voit l'intérieur de l'appartement de Lorraine filmé avec une petite caméra. En fait, Stephen observait régulièrement Lorraine à travers la vitre de son appartement, discrètement avec cette petite caméra qu'il avait accrochée à un manche, ce qui lui permettait de placer entre les volets la caméra pendant une ou deux minutes et de prendre comme ça des vidéos volées au fil des jours. Cette vidéo, pour les enquêteurs, est la preuve que Stephen est définitivement quelqu'un de dangereux, qui cache parfaitement son vrai visage et surtout qu'il était certainement le voyeur qui harcelait Lorraine depuis des mois et des mois. Son appartement était voisin du sien, il pouvait parfaitement écouter la jeune femme savoir quand elle était absente pour entrer à l'intérieur du logement, et on retrouve d'ailleurs l'une de ses clés chez lui. Grâce à cette caméra, il a aussi remarqué que Lorraine, très récemment, avait installé une barre anti-effraction sur sa porte. Il s'est renseigné sur le modèle pour connaître ses failles. Place à l'interrogatoire et à l'horrible scénario qu'a vécu Lorraine Giddings.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Une personnalité psychopathe. Le 1er juillet, Stephen McDaniel est placé en salle d'interrogatoire et ce qui choque, c'est son sang-froid absolument incroyable, digne des plus grands psychopathes de l'histoire. Pendant 2 heures d'interrogatoire, 2 heures pendant lesquelles les enquêteurs lui balancent leurs preuves, l'accusent, le menacent, essaient de faire ami-ami, se rapprochent, s'éloignent, le touchent, etc., Stephen ne bouge pas d'un poil. Tous les éléments présents sur la vidéo accélérée de l'interrogatoire bougent, même le mug à café, mais Stephen, à part tourner la tête, ne fait rien. Aucun signe de stress, il ne gigote pas, ne se tient pas la tête, rien de rien. Impossible de savoir dans quel état mental il est réellement. Il ne répond que par oui ou par non. Voyez par vous-même cet extrait.
Did you hurt that girl, Stephen?
No.
Have you ever hurt anyone, Stephen?
No.
Never hurt anyone.
Et tout l'interrogatoire de 2 heures qui a été diffusé sur YouTube est comme ça. Stephen répond par oui, non, je ne sais pas, il n'a aucune réaction lorsqu'on lui demande pourquoi il a frappé Lorraine, pourquoi il l'observait, pourquoi il a recherché des photos d'elle nue. Il ne répond que par oui ou non encore et encore en gardant parfaitement le contrôle de ses émotions. Sur le corps de Stephen, on retrouve pourtant des traces de lutte comme s'il avait été frappé ou griffé très récemment. Mais impossible de comparer ces marques avec les ongles ou les doigts de Lorraine puisqu'on ne sait toujours pas où est le reste de son corps. Malgré tout, les enquêteurs vont réussir à accuser Stephen de meurtre puisque, souvenez-vous, on retrouve une scie dans l'appartement de Lorraine. Cette scie appartient à Stephen, on a la preuve d'achat et l'emballage. Il est donc officiellement accusé de meurtre à la fin du mois d'août 2011. Entre-temps, Lorraine a été enterrée par ses proches. L'une des photos les plus tristes de son enterrement, c'est celle-ci. Une sorte d'urne dans laquelle sa famille a placé son torse. La seule chose qu'il leur reste pour l'instant de Lorraine pour lui rendre un dernier hommage et avoir quand même une tombe sur laquelle se recueillir. De son côté, Stephen prépare sa défense et décide de plaider non coupable. Il est d'ailleurs soutenu par ses parents, Mark et Glenda McDaniel, qui sont persuadés de l'innocence de leur fils. Jamais Stephen n'aurait fait un truc pareil, quelle horreur! Et ses avocats font du bon boulot, ils vont réussir à prouver que dans cette affaire, il y a un conflit d'intérêts, puisque pendant ses études, Stephen a travaillé comme greffier pour le juge Ennis, qui doit statuer sur l'affaire. Mais ça n'ira nulle part. C'est à ce moment-là que Stephen va quand même commencer à avoir chaud aux fesses puisque dans l'état de Géorgie, il y a encore la peine de mort, même si la famille de Lorraine est contre, comme l'était leur fille, pour respecter sa mémoire. Stephen flippe quand même un peu à l'idée d'être emmené à l'abattoir, et au vu des preuves retrouvées, ça va quand même être chaud pour lui de s'en sortir. Se sachant donc complètement foutu au vu des preuves retrouvées chez lui, Stephen, qui est malgré tout un type intelligent, qui a eu d'ailleurs son diplôme universitaire de droit, sait qu'il ne s'en sortira pas. Alors, en avril 2014, il décide d'accepter un accord de plaidoyer. La justice lui propose une chose, on ne le juge que pour le meurtre de Lorraine Giddings, pas pour ses différents cambriolages dans les appartements voisins, ni pour la possession d'images de jeunes enfants sur son ordinateur, ce qui lui évite un sentiment de malaise lors de son procès et d'être classé comme pointeur en prison et de vivre un enfer carcéral. Aussi, l'accord lui prévoit une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Alors, il va enfin se mettre à parler. Stephen explique qu'aux premières heures du dimanche 26 juin dans la nuit, il était plus excité que jamais après avoir de nouveau filmé Lorraine à travers la vitre de son appartement. Vers 4 heures du matin, il s'est assuré que Lorraine dormait en écoutant au mur et il s'est habillé en noir pour être le moins visible possible avec des gants et un masque. Il est entré dans l'appartement de Lorraine sans aucun problème avec ses clés et ses techniques pour déverrouiller sa barre anti-effraction. Il s'est alors tout de suite dirigé vers sa chambre. Lorraine s'est réveillée quand Stephen a commencé à l'étrangler. Les deux sont battus, mais Stephen a serré fort, très fort d'un coup. Par réflexe, Lorraine a réussi à enlever le masque que portait Stephen. À partir de là, le voisin pervers explique qu'il n'avait plus le choix. Il fallait définitivement finir ce qu'il avait commencé. Alors, il a serré pendant 15 minutes, 15 longues minutes pour s'assurer qu'elle ne reprendrait pas connaissance avant de la traîner jusque dans sa salle de bain et de la placer dans la baignoire. Après ça, Stephen a quitté l'appartement et n'est pas tout de suite retourné chez Lorraine. Sa pulsion meurtrière étant passée, il a regardé Very Bad Trip 2 pour se détendre, a mangé et s'est endormi tranquillement. Il n'est retourné chez sa voisine que le lendemain, une fois la nuit tombée, équipé de sa scie à métaux pour découper pendant de longues heures. Par contre, Stephen avoue tout, sauf le motif sexuel. Il répète ne pas avoir abusé de Lorraine. Ça, on y croit ou on n'y croit pas, mais au vu de l'obsession de Stephen vis-à-vis de Lorraine, c'est quand même difficile à croire, mais on peut pas le prouver. D'ailleurs, Stephen dit s'être débarrassé des membres et de la tête dans une benne à ordures près de Mercer en les transportant dans des sacs plastiques. Il a jeté le torse dans la benne lorsqu'il a commencé à voir l'agitation dehors, mais avait à la base prévu de le garder un peu plus longtemps avec lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a caché la scie à métaux dans le placard de Lorraine, par panique, parce que sa disparition a été découverte plus tôt que prévu. Stephen a affirmé qu'il était dans un état délirant après la mort de Lorraine, s'accrochant à la conviction qu'elle était peut-être encore en vie et qu'il pourrait la retrouver d'une manière ou d'une autre. Il a reconnu son crime, mais a eu du mal à expliquer les motivations de ses actes. Il a pleuré Lorraine et a exprimé des remords pour sa mort et a reconnu qu'il ne méritait pas le pardon de sa famille. Suite à l'accord de plaidoyer, aucun procès n'a été organisé. Stephen a purement et simplement été condamné à 30 ans de prison avec une libération conditionnelle prévue en 2041. Sauf que, sur conseil de différents avocats qui ont suivi l'affaire de près, Stephen va décider de faire appel en disant que, finalement, il est innocent puisqu'il existe une faille dans le dossier. Si un procès avait eu lieu, l'accusation aurait dû prouver que Stephen est le meurtrier. Ils peuvent prouver qu'il a découpé avec la scie qui lui appartient, mais pas qu'il a tué, puisque dans ce cas, il aurait fallu prouver que Lorraine était vivante au moment où Stephen l'a découpée. C'est un peu tiré par les cheveux, je sais, moi aussi j'ai eu du mal à comprendre, mais en gros, le doute aurait pu profiter à l'accusé. Stephen décide donc de faire appel en demandant un procès, disant que son avocat l'a très mal défendu, et son avocat justement, Maître Floyd Bufford, va avouer que oui, il a mal défendu Stephen, tellement il a été choqué par le dossier parce que Stephen est entré en privé avec lui dans tous les détails de ce qu'il avait fait. Il lui a dit avoir jeté les doigts de Lorraine dans les toilettes, qu'il avait fait des recherches sur quelles conséquences pouvait avoir le fait de coucher avec des personnes décédées. L'avocat est honnête. Oui, il a été tellement choqué qu'il a conseillé à Stephen de plaider coupable et d'accepter le plaidoyer. Malgré tout, cette demande de révision ne mènera à rien. Elle sera refusée par la justice. Aujourd'hui, Stephen est toujours en prison en Géorgie. Il a réussi à échapper à la peine de mort et s'il se tient bien et ne fait pas de vagues, il pourra donc demander une libération sous condition en 2041. Si vous m'écoutez toujours d'ici là, je ne manquerai pas de vous en informer sur Twitter ou Instagram. En tout cas, moi, je serai encore là. Les parents de Stephen défendent toujours à ce jour leur fils et sont persuadés qu'il a avoué car mal conseillé par ses avocats. C'est tout. L'appartement dans lequel Lorraine a perdu la vie et a été découpé est toujours loué aux étudiants de l'université. Il n'a pas été détruit ou réaménagé. Vous pouvez donc toujours prendre une douche ou un bain dans la même salle de bain, ce qui, je trouve, est un peu glauque. Tous les ans, une marche en la mémoire de Lorraine est organisée. Un tournoi de softball a également été mis en place, permettant de récolter des dons pour financer les études d'autres jeunes voulant aller à l'université, comme Lorraine l'a fait. Au moment du meurtre, David le dira plus tard, il avait prévu de faire une surprise à Lorraine en lui demandant d'emménager avec lui 2 semaines plus tard. À l'heure où je boucle cet HVF, la tête et les membres de Lorraine Giddings n'ont jamais été retrouvés. La seule chose qui repose à ce jour au cimetière est son torse. Si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout, mettez voyeur en commentaire, puisque Lorraine a finalement été victime de son voisin, voyeur et obsédé par elle, au point qu'il est entré dans son appartement, l'a étranglé, puis l'a découpé dans sa baignoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous pensez que Stephen a pu avoir des relations avec le corps de Lorraine au vu de son obsession. Personnellement, je vous avoue que j'en suis complètement persuadé. Bref, c'est Mike Skies, on se retrouve sur Twitter pour ceux qui veulent, ou bien sur Instagram également pour les autres, si ça vous dit. C'était Mike Skies, on se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'oubliez pas le pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, bye.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want truly hydrated skin? Meet Osea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.